débat du jour.
Romain Ouzoui.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre débat sur RFI. Son histoire semble tout droit sortie d'un film. Nous évoquons ce soir le sort très emblématique de Robert Bergdahl. En 2009, ce jeune Américain rêve d'aventure quand il est recruté par l'armée pour combattre en Afghanistan. Mais rapidement, très rapidement même, il déchante. Au bout de seulement 26 jours de camp, cet homme disparaît. Il est alors arrêté par les talibans qui vont le détenir pendant 5 ans. Selon les récits, le soldat Bergdahl sera le plus souvent enfermé dans une cage en fer, dans le noir absolu. Et la question qui se pose aujourd'hui est celle-ci. Est-ce qu'il faut condamner le soldat Bergdahl? Et il va être prochainement jugé pour désertion. Ce sont des faits qui, aux États-Unis, sont passibles de la prison à vie. La question enflamme le débat aux États-Unis. Nous la posons ce soir sur RFI. Et pour y répondre, à nos côtés en studio, Yann Andruetan, psychiatre, médecin en chef du service de santé des armées. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez effectué plusieurs missions en tant que médecin d'unité et comme psychiatre en Afghanistan en 2009, au moment des faits justement concernant le soldat Bergdahl. Vous nous parlerez de la réalité du terrain afghan il y a 6 ans. Et puis en ligne depuis le Var, dans le sud-est de la France, le général de brigade Benoît Royal. Vous commandez les écoles militaires de Draguignan, également chercheur associé au pôle éthique et déontologie du Centre de Recherche des Écoles de Saint-Cyr. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors tout d'abord, je voudrais revenir sur l'histoire du soldat Bergdahl, car elle remet en cause l'armée américaine, et c'est en cela notamment qu'elle est emblématique. Robert Bergdahl a grandi à Los Angeles dans une famille qui n'avait pas vraiment de valeurs militaristes, d'abord des valeurs de liberté. Et s'il s'engage en 2009 dans l'armée américaine pour combattre en Afghanistan, il affirme que c'est parce qu'il veut d'abord aider le peuple afghan opprimé dans la guerre menée par les talibans. Et très rapidement, il est donc frustré, car sa mission s'apparente uniquement à une traque des talibans, c'est en tout cas ce qui ressort dans les emails qu'il a envoyés à ses proches. Alors première question, Benoît Royal, je vous la pose, ça veut dire quoi finalement cette histoire du soldat Bergdahl? Ça veut dire qu'il n'y a pas de place dans l'armée américaine pour un homme qui a une vision idéaliste de cette armée?
La question est probablement un peu raccourcie. Il faudrait savoir exactement ce qu'il y avait dans la tête de ce soldat. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que 80% des jeunes qui s'engagent aujourd'hui dans l'armée de terre française, aujourd'hui, ils s'engagent pour l'aventure. C'est sûr, ils s'engagent pas pour la guerre. Au départ, leur envie, c'est de servir quelque chose, de voir du pays, de voir une aventure, de vivre une aventure humaine. Donc, ils ne sont pas nécessairement préparés à ce qu'ils vont, ce à quoi ils vont être confrontés sur les tas d'opérations. Et c'est dans la phase de préparation, de formation et d'éducation que les esprits se préparent à la mission. Donc la question qu'il faut se poser, c'est plutôt, est-ce que ce soldat a été bien préparé à sa mission?
Donc ça veut dire qu'il y a un vrai problème au niveau des États-Unis sur justement cette préparation, comme vous le dites, de la réalité de la guerre?
En tout cas, il y a probablement des questions à se poser sur la durée qui était consacrée. Quand on regarde simplement les chiffres bruts qui sont à la disposition de tout le monde, c'est que à l'époque, un soldat recruté aux États-Unis, donc venant du civil, pouvait, après 4 mois de formation uniquement, se retrouver projeté en Afghanistan dans un environnement de combat que l'on a souvent décrit, donc compliqué, cruel, difficile. Pour vous donner une comparaison, en France, quand on prenait un jeune soldat et qui était recruté, il avait 6 mois entiers de formation initiale et 6 mois entiers de préparation à sa mission spécifique. Donc il mettait au moins 1 an avant d'être projeté.
Donc ce que vous voulez nous dire, c'est qu'à travers finalement l'histoire du sergent Bergdahl, il y a une critique à faire de l'armée américaine aujourd'hui?
Je ne sais pas s'il y a une critique à faire de l'armée américaine, mais probablement une remise en question, et je crois qu'ils l'ont déjà conduite depuis, parce que les durées de formation ont été allongées. Alors pas uniquement par à cause du cas du soldat Bergdahl, bien sûr, mais probablement parce qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait prendre plus de temps pour former leurs soldats à affronter des situations extrêmement complexes, et que 4 mois, c'était certainement insuffisant. Je crois qu'ils sont déjà aujourd'hui à plus de 6 mois. Les questions sont posées sur ce sujet-là, en tout cas.
Yann Andruetan, vous qui avez effectué justement plusieurs missions en tant que médecin, en tant que psychiatre en Afghanistan en 2009, vous confirmez cette situation qu'il y a un décalage finalement entre l'image que les jeunes qui partent à la guerre ont et la réalité du terrain?
Alors, à l'engagement, oui.
comme le disait le général Royal, ces jeunes, ils s'engagent d'abord pour l'aventure, pour vivre l'aventure de leur vie. Et c'est pour ça que c'est important ce temps consacré à la préparation. On voit bien dans l'armée française, par exemple, hein, que ce temps, c'est un temps de préparation, d'aguerrissement. Et pour nous, psychiatres, c'est souvent un temps où on intervient parce que c'est souvent là que certains sont confrontés à la réalité des armées et se disent que ça n'est pas fait pour eux. Et souvent, nous, on intervient à ce moment-là parce que c'est une cause de réforme et parce qu'ils vont présenter un certain nombre de troubles qui vont entraîner une réforme. Donc, cette phase est vraiment importante. Après, sur le terrain, moi, j'ai souvent entendu dire, quand j'étais en Afghanistan, quand je leur posais la question, ils me disaient, mais vous savez, quelque part, on n'est pas content, mais on est satisfait parce que pour la première fois, on fait ce pourquoi on s'est entraîné. Et ça m'avait beaucoup frappé, cette satisfaction à faire ce pourquoi ils s'étaient entraînés, et ça, c'était important pour eux.
Alors, c'est pas en tout cas ce qui est ressorti des propos du soldat Bergdahl. Il a envoyé des mails à ses proches au cours de sa mission. J'ai honte d'être américain, il a déclaré, évoquant les Afghans. Il a écrit ces gens ont besoin d'aide. Tout ce qu'ils reçoivent, ce sont les remarques du pays le plus arrogant du monde, qui leur dit qu'ils ne valent rien.
Alors, moi, il y a quelque chose quand même qui me frappe dans cette histoire. Ça a l'air d'être quand même un cas isolé. Alors, je connais pas bien le problème de la désertion aux États-Unis, mais ça a l'air d'être un cas relativement isolé. Et puis, il y a tout un tas de questions que moi je me suis posé en relisant le cas de ce soldat, du sergent Bergdahl. Il a l'air d'être un peu quand même en dehors du groupe. Hein. Il a l'air d'être un peu à côté. Et puis, il y a les faits. Enfin,
ça gêne justement qu'il soit un peu à côté, c'est-à-dire que il discutait avec des Afghans. Dans l'idée américaine, c'est pactiser avec l'ennemi.
Alors, je connais pas bien l'armée américaine. Hein. Je les ai côtoyés, mais je peux pas dire que je les connaisse très très bien. Je connais un peu les États-Unis. Je ne sais pas. Je peux pas vous dire. Alors, c'était, je pense, sur une COP ou sur une FOB relativement isolée. Le fait effectivement, mais de toute façon, c'est tout groupe est comme ça. Le simple fait de sortir du groupe, marqué quand même par une certaine cohésion, et aller vers l'autre qui est représenté par les Afghans, on peut penser que ça ne devait pas participer à son intégration dans le groupe. Après, moi, ce qui me frappe, c'est l'acte en lui-même.
La désertion au bout de 26 jours.
Oui, il y a quelque chose qui est assez étonnant. Alors, en relisant le dossier de presse, il y a une hypothèse qui n'a jamais été évoquée chez le soldat Bergdahl. Est-ce qu'il ne présente pas un trouble de la personnalité? Et c'est jamais évoqué, parce qu'il y a quand même quelque chose, alors moi ça me frappe en tant que psychiatre, qui est assez incompréhensible, partir comme ça à l'aventure, alors certes, il connaissait bien la montagne, mais enfin, partir comme ça à l'aventure, on se demande ce qu'il va faire. Et à aucun moment n'est évoqué effectivement des troubles psychiatriques, sachant que il avait déjà tenté de s'engager dans la Légion, que la Légion étrangère
l'a refusé,
alors par contre ça, je connais un peu mieux la Légion étrangère, et ils sont assez précis, rigoureux sur les gens qu'ils engagent, justement. Et au bout de 26 jours, quand il veut s'engager chez les Coast Guard préfèrent s'en débarrasser aussi. Donc, il y a quand même des questions autour de ce dossier qui dépassent largement la question de l'armée américaine et de l'entraînement de ces soldats.
Général Benoît Royal, qu'est-ce qu'on doit penser d'un homme qui, au bout de 26 jours d'une mission, d'un Américain qui, au bout de 26 jours d'une mission, quitte son unité?
Il faut s'interroger sur la pertinence de sa présence à cet endroit-là. C'est clair, je rejoins complètement ce que dit le médecin Druetan.
Donc, erreur de recrutement de l'armée américaine?
En tout cas, erreur d'affectation. Alors, erreur de recrutement, la question est posée. Il y a toujours des erreurs de recrutement. Quel que soit l'effort que l'on peut faire dans les tests initiaux, c'est jamais sûr à 100%. C'est pour ça aussi qu'il y a cette période de montée en puissance, de préparation, de formation. On appelle ça l'aguerrissement, c'est-à-dire apprendre à devenir un guerrier, hein, et qui en plus permettent d'observer le jeune qui s'est engagé dans la durée. En France, un jeune qui est recruté fait toute une batterie de tests extrêmement précis, des tests psychotechniques, des tests de résistance au stress, quelques tests physiques, et ensuite il est classé comme un niveau parfaitement adapté, moyennement adapté, pas vraiment adapté. Et on essaye de prendre uniquement les deux premiers groupes. S'il n'a pas été pris à la Légion, très clairement, c'est pas qu'il remplissait pas les critères de sélection de la Légion étrangère. Il faut savoir que la Légion étrangère recrute 1 sur 10 actuellement. Donc elle a un bon taux de sélection qui permet d'avoir des soldats ou des jeunes qui arrivent dans l'armée, qui sont vraiment prêts, en tout cas, qui intellectuellement, psychologiquement, ont une disposition d'esprit qui leur permettra de s'adapter à l'environnement qui va être le leur. Donc sur ce jeune garçon, très clairement, il faut se poser la question de savoir si il y a eu suffisamment de prise en compte de sa personnalité avant qu'il soit envoyé en Afghanistan.
À cette période, l'armée américaine était jugée moins regardante sur le recrutement car épuisée par les campagnes menées en Irak et en Afghanistan. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est probablement un peu vrai. Vous savez, quand on regarde les chiffres bruts, si on compare la France et les États-Unis, l'armée française aujourd'hui, c'est 10 fois moins que l'armée américaine. À peu près, hein, en termes d'effectifs. Et pour pouvoir avoir ces effectifs-là, nous, on a une population de 70 millions d'habitants. Et les Américains, ils n'ont pas une population 10 fois supérieure. Ils n'ont pas 700 millions d'habitants, ils ont 310 millions d'habitants. Donc, très clairement, ils ont un réservoir de jeunesse qui est 2 fois moins important que le nôtre pour pouvoir trouver une ressource qui leur permette de remplir les missions. Donc, oui, ils ont été obligés de dégrader un certain nombre de critères au recrutement, c'est évident. Et donc, à partir de là, il y a probablement une fragilité supérieure initiale qui nécessiterait de prendre beaucoup plus de temps dans la formation pour compenser peut-être des petites défaillances. Et c'est peut-être une cumul de ces choses-là qui ont conduit à ce cas particulier de ce jeune soldat qui a été peut-être projeté un peu rapidement alors qu'il n'avait pas nécessairement toutes les dispositions pour faire face à la situation compliquée à laquelle il était confronté.
Yann Andruetan, fragilité de cet homme plus que finalement l'armée qui est à remettre en cause, vous qui avez travaillé justement sur les traumatismes liés à ces jeunes qui partent à la guerre?
Moi, je rejoins tout à fait le général Royal dessus, là-dessus. Je pense qu'effectivement, on doit beaucoup plus parler de vulnérabilité. D'autant plus que, historiquement, les Américains ont toujours été confrontés, l'armée américaine confrontée à ces questions de recrutement, hein. Ils sont à la recherche du profil parfait. Alors pendant la guerre de 14, ils avaient essayé de trouver le profil parfait, ils se sont retrouvés avec beaucoup de pertes psychiques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont écrémé, et c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Il y a des gens qu'ils avaient éliminés, puis qui sont revenus par une autre porte, qui ont été d'excellents soldats. Le Vietnam, c'était la même chose. Enfin, ils sont toujours à la recherche du profil parfait, et effectivement, on finit toujours à un moment donné par épuiser, parce que la proportion de la population n'est pas la même. Et puis effectivement, en 2008-2009, ils étaient beaucoup moins regardant, et puis peut-être parce que aussi ne montrez pas de profil. Alors on va pas non plus jeter totalement la pierre à mes confrères américains. Il y a des profils qu'on ne voit pas parce que on ne cherche pas systématiquement non plus des profils à risque, hein.
Vous ne pensez pas en tout cas que c'est l'armée américaine qui l'a détruit?
Oh, je crois qu'il faut un peu s'éloigner du stéréotype Full Metal Jacket. Mmh. Je crois qu'il faut un peu se sortir de ces représentations. Alors c'est vrai que l'armée américaine aime bien montrer certaines représentations autour de la virilité, autour de l'excellence, mais je crois qu'il faut un peu se sortir de là. Hein. Moi, j'y crois pas. Je les ai rencontrés, les Américains, sur le terrain. Hein. Sont pas des machines de guerre, bien au contraire. Hein. Moi, je parierais plutôt sur une vulnérabilité. Alors après, il y a la question du traumatisme psychique. Bon, alors là encore, il faut savoir de quoi on parle. Je crois que ça faisait à peine un mois qu'il était déployé sur le terrain. Il avait été confronté, je crois, à un tic qui avait été, alors un tic, un troop in contact, une échauffourée avec des talibans qui avait duré 4 jours. Ça me paraît difficile parce que il faut savoir de quoi on parle. Est-ce que on est vraiment dans un traumatisme psychique? Mais généralement, les traumatismes psychiques, ça se déclenche à distance, au retour des mois. Alors, des semaines, des mois après le retour. Là, on serait plutôt dans un cas de stress aigu. Mmh. Ça me paraît là encore peu probable. Par contre, que le stress ait révélé une vulnérabilité, un trouble de la personnalité sous-jacent, oui, ça c'est tout à fait possible.
Alors cette affaire est devenue politique. Barack Obama, le président américain, a scénarisé en grande pompe à la Maison-Blanche l'annonce de la libération du soldat Bergdahl. Il a reçu ses parents, ça lui a valu une pluie de critiques de la part du camp d'en face, hein, les républicains, qui ont rappelé qu'aux États-Unis, on ne négocie pas avec les terroristes, puisque en échange de la libération du soldat Bergdahl, 5 commandants afghans ont été libérés, qui se trouvaient sur la base de Guantanamo. Le général général Benoît Royal, si l'affaire a pris une tournure aussi politique aux États-Unis, est-ce que c'est pas parce que finalement on touche à un sujet sensible aux États-Unis, le mythe du soldat qui déserte? Je voudrais juste de citer un sondage, 75% des Américains souhaitent qu'il soit condamné pour crime militaire. Pourquoi cet acharnement sur cet homme qui, on le rappelle, a quand même été pris en otage suite à sa désertion pendant 5 ans dans des conditions extrêmement difficiles par des talibans?
Oui, complètement. Je suis toujours un peu surpris de ces chiffres. Je me pose la question de savoir selon quelles informations et quelles connaissances du sujet la population américaine se positionne sur ces 75%. Évidemment, si on leur présente un soldat qui a déserté en Afghanistan, qui a fraternisé avec l'ennemi et puis qui ensuite a été racheté par les Américains au prix de 5 prisonniers, on peut comme ça, de façon brutale, dire il mérite d'être condamné. Et puis maintenant, quand on regarde de façon un peu plus précise le cas particulier, c'est-à-dire qu'on a quand même un homme, il faut pas oublier qu'on a un homme qui a passé 5 ans enfermé dans des conditions totalement inhumaines, quelles puissent être les conditions dans lesquelles cette capture se sont déroulées, et l'enquête le dira, on a d'abord, et je crois que les Américains ont bien fait, de tout faire pour le libérer. Nous avons d'abord le respect de l'humanité et de sortir ce garçon des conditions absolument abominables dans lesquelles il était.
Donc selon vous, il ne doit pas être condamné, il a déjà purgé sa peine d'une certaine manière?
J'en sais rien. Je peux simplement dire que condamné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il sera sanctionné.
Et après, ça veut dire prison à vie possible?
Ah ben voilà, mais si vous voulez, entre avoir une condamnation avec sursis et la prison à vie, il y a quand même tout un échelon, toute une échelle de sanctions sur lesquelles on peut quand même avoir un positionnement un peu plus mesuré. Donc nous, on peut pas se prononcer sur ce cas-là. Il faut regarder. Et puis s'il s'avère que effectivement, il y a un défaut de personnalité, il y a une vraie fragilité derrière. Il a quand même des circonstances atténuantes qui fait qu'il méritera peut-être d'avoir un peu plus de mansuétude à son égard. Donc voilà, difficile de dire oui, non. S'il se trouve qu'il y a eu un vrai... De toute façon, une désertion reste une désertion. Il faut regarder ça avec certitude, avec circonspection. Mais pour autant, ne pas s'engouffrer dans la brèche et avoir des jugements très abrupts sans avoir tous les tenants, les aboutissants. Et c'est d'ailleurs pour ça que le procès est fait.
Yann Andruetan, vous aussi, vous estimez que des enquêtes psychologiques, finalement, doivent être approfondies avant d'envisager une condamnation du soldat Bergdahl?
Bien évidemment, puis je pense que ça doit être fait. Il y a, on serait en France, il y aurait une expertise psychiatrique où la question qui serait posée, c'est est-ce qu'il y a un trouble du jugement? Je crois que ça, c'est important, effectivement, et je pense que les Américains vont le faire. Le système judiciaire américain est en fait telle sorte qu'il ne faut pas commencer par condamner. Et puis je crois qu'il y a beaucoup de journalistes qui l'ont aussi rappelé, c'est qu'il y a aux États-Unis, et bien avant la France d'ailleurs, il est innocent, tant qu'il n'a pas été condamné, il est innocent. Donc je crois que ça, c'est important à garder à l'esprit. Et effectivement, c'est la façon aussi, moi je suis un peu étonné qu'on l'ait déjà condamné, c'est pas les sondages qui condamnent, et même aux États-Unis, ce ne sont pas les sondages.
Mais pourquoi le débat est aussi vif aux États-Unis?
Parce que je crois que ça touche à quelque chose qui est très profond dans l'imaginaire américain, c'est le soldat. Les Américains sortent tout juste d'une longue période qui a commencé avec le Vietnam, où on a condamné le soldat, et là, depuis quelques années, on est passé du cinéma qui accusait au cinéma qui montrait la réalité, au cinéma de la guérison, quelque part. Et je pense que le dernier film d'Eastwood, American Sniper, est dans ce sens-là, où on présente un soldat, un sniper en l'occurrence, mais sans le juger quelque part. Donc ils reviennent à cette image du soldat américain qui est le représentant de la démocratie, des valeurs américaines. Et là, quelque part, ça les met un peu en difficulté, effectivement, ce soldat qui s'est fait de désertion. C'est assez inhabituel. C'est le seul, d'ailleurs, en Afghanistan qui a déserté sur le terrain. Et puis, je crois que c'est le seul qui, depuis... Oui. Des années à déserter sur le terrain. C'était pas arrivé depuis le Vietnam. Donc je crois que ça touche à quelque chose qui est très profond dans la culture populaire américaine.
Et le sujet est effectivement emblématique. Merci Yann Andruetan, psychiatre, membre du service de santé des armées, auteur du livre Blessures psychiques en digestion. Merci à vous, général Benoît Royal, d'avoir été en ligne avec nous pour ce débat. Commandant des écoles militaires de Draguignan et chercheur associé aux politiques et déontologie du Centre de recherche des écoles de Saint-Cyr. Ce débat est maintenant terminé. Vous pouvez le réécouter sur notre site internet.